Et tout au long de cette semaine, nous allons découvrir une personnalité de la région et un univers par la même occasion. L'univers, c'est celui de la magie, la personnalité. C'est Tao, Magic Tao, avec nous pour nous faire partager cet univers de la magie. Vous êtes d'origine vietnamienne, c'est ça?
Exactement. Mon nom Antoine, mon prénom français est Tran Antoine. Et en fait, Tao reprend mes initiales. En fait, T pour Tran, mon nom de famille, A Antoine, O comme originalité. Et Tao, étant donné que je pratique les arts martiaux, représente également les arts martiaux. C'est la partie technique, ce qu'on a appelle pour les karatés un kata ou un pumse au taekwondo. Ça représente également le symbole du yin et yang. C'est pour ça que j'ai pris un peu ce pseudo. Ça fait un peu plus asiatique Antoine d'ailleurs. J'étais restaurateur sur Limoges, rue des Combes, qui s'appelait la Tour d'Asie. Et c'est grâce à cet établissement que je me suis fait un peu les armes, où j'ai rodé mes numéros, car chaque soir j'avais une clientèle différente pour pouvoir faire mes nouveaux tours. Les TC, c'était un peu les cobayes en fait, les Limogeaux.
Vos premiers spectateurs.
Exactement.
Le premier contact, le premier souvenir que vous avez de votre rencontre avec cette magie, c'était où?
Alors, déjà, je regardais beaucoup à l'époque les Coucou Sinou. Il y avait Bernard Bilis, qui est dans le plus grand cabaret du monde maintenant. À la même époque, il y avait Sylvain Mirouf, qui passait dans le studio Gabriel. Et c'est un peu les deux magiciens les déclencheurs de cette passion. Par la suite, j'ai rencontré un magicien qui s'appelait Cyril Maurice sur Limoges. Il m'a fait un petit tour, j'étais bluffé et je lui ai demandé si on pouvait apprendre la magie. Et ça a débuté comme ça.
Alors, apprendre la magie, ça veut dire qu'il y a des écoles ou c'est vraiment on apprend parce qu'on a une rencontre avec un professionnel?
Alors moi, j'ai eu la chance de faire une belle rencontre donc avec Cyril, qui m'a appris pendant un an la manipulation des cartes. Et par contre, après, il y a Limoges qui appelle le CRHL, Cercle Robert Houdin du Limousin. Ce n'est pas une école, par contre, c'est juste un club de rencontres, un club de rencontres entre magiciens.
Hein. Voilà, on va saluer madame au passage. Hein.
Voilà, on se montre des trucs, voilà. C'est sûr de le dire. Il faut avoir une certaine base, il faut être parrainé déjà par un magicien qui est là depuis quelques années. C'est plus du moins un club où on échange les connaissances en magie, les nouveautés qu'on vient d'apprendre et voilà, pour pouvoir les améliorer grâce à ces différents adhérents.
Et puis ensuite, on se dit, je vais en faire mon métier, je veux être magicien. Comment ça s'est passé? Comment on le décide?
Oui, le déclencheur, c'était l'émission Incroyable Talent en 2009, où j'ai participé. Et c'est après cette émission-là que j'ai eu énormément de contacts, beaucoup d'agents dans toute la France qui m'ont contacté. Le restaurant, je voulais le revendre la même année. Mes parents devaient être à la retraite. Donc voilà, tout s'est enchaîné, vraiment par hasard.
La magie, c'est une grande famille d'une manière générale?
Alors, c'est comme tous les métiers, je pense que artistique, c'est assez requin quand même, hein. Donc on a plus ou moins chacun une place, mais on est à plus ou moins un réseau de magiciens où on se fait une réunion de temps en temps sur un thème bien précis pour travailler ce numéro et l'améliorer. Et d'ailleurs, il y a une rencontre de magiciens où il y a un millier de magiciens qui dans toute la France, parce qu'il y a la fédération FFAP, qui est la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs. C'est dur à dire, hein.
Oui, c'est mieux magicien. Hein.
Voilà. C'est un peu du chinois pour moi. Et grâce à ça, il y a des conférenciers qui viennent du monde entier. Vous avez des concours de close-up, qui est la magie de proximité, la magie de salon, qui est un petit peu plus visuelle, et la magie de scène. Voilà, c'est tout ce que vous voyez, grande illusion, manipulation sur scène.
On termine par votre référence en tant que magicien. Ce serait qui?
Alors moi, ce serait David Copperfield, qui est assez connu dans le monde entier, qui a son propre théâtre et salle de spectacle à Las Vegas maintenant, car c'est un magicien qui reprend beaucoup les classiques, sauf qu'il les personnalise. Il a vraiment son univers, disons qu'il met vraiment en valeur grâce à la présentation, les partenaires qu'il a sur scène. Ça fait beaucoup, hein, les partenaires, ça détourne l'attention, hein. et c'est vrai que le choix de la musique, du déplacement sur scène, le timing du numéro est très très important, et ce monsieur là a tout compris, hein. Donc c'est un très bon exemple à suivre. Après, tout dépend des personnalités, mais il faut voir un petit plus qui fait la différence. L'humour, moi ça c'est ce que j'aime bien, parce que j'aime bien faire un petit peu ce qu'on appelle les blagues à deux balles. Ils sont à 2 euros, mais non, hein. Ça a plus de valeur.
C'est aussi notre spécialité, on est d'accord.
Ça permet vraiment de créer son personnage, mais si c'est pas l'humour, il y a également, il y en a beaucoup qui travaillent sur le romantisme aussi. Voilà, comme Boris Weil, qui est un magicien international qui voyage partout. Et lui, il a fait sa carte de visite avec des tours qui sont beaucoup plus poétiques. Voilà, pour dire qu'il n'y a pas seulement l'humour, il y a aussi la partie dramatique. Il y en a qui sont un peu la magie gore aussi, hein. À pas faire pour les arbres de Noël, bien sûr. Voilà, c'est tous ces thèmes-là qui font la différence.
Deuxième rendez-vous dans l'univers de la magie que nous partageons tout au long de cette semaine avec Tao Antoine Tran, de son vrai nom, plus de 15 ans dans cet univers de la magie. Quel est le numéro qu'on est obligé de maîtriser si on veut être crédible face au public?
Alors, vous avez les classiques, comme vous voyez souvent les anneaux chinois, les numéros de cordes, et surtout principalement les cartes, que j'apprécie énormément, car avec un jeu de cartes, on peut faire des centaines de tours. Alors pas forcément sur scène, parce que ce n'est pas assez visuel, mais du coup on l'adapte avec ce qu'on appelle les cartes jumbo, ce sont des cartes géantes.
Quelque chose de bluffant, c'est la manipulation des cartes par un magicien.
Ça, c'est ce qu'on appelle la cascade japonaise. En fait, c'est quand on voyait beaucoup à la télé, c'est quand les cartes tombent d'une main à l'autre en cascade.
C'est très très énervant. Hein,
Le mélange américain, vous allez sûrement entendre comme dans les casinos, c'est quand on prend moitié dans chaque main. Ça, c'est les cartes qui sont chevêtres. Ensuite, on ponde le jeu, on fait un pont et on laisse tomber les cartes. Voilà, ça fait une sorte de...
Et quand nous, on essaye de juste de les imbriquer les unes dans les autres, ça nous prend déjà 10 minutes. Donc, voilà.
C'est pour ça qu'on en fait notre métier. Heureusement que tout le monde ne le fait pas.
Ça vous arrange. Combien de jeux de cartes, vous avez déjà une idée?
Je suis collectionneur de jeux de cartes, moi, donc je dois en avoir bien plus de 200 différents. Moi, je les achète par cartouche de 12, un peu comme les cigarettes, comme je ne fume pas. Moi, j'ai des paquets de cartouches de cartes. Étant donné que je fais beaucoup de manipulations sur scène où les cartes tombent par terre, et une fois qu'elles tombent par terre, je ne les réutilise pas. Déjà parce que les gamins, les ramasse, ça m'évite de faire le ménage, mais en plus ça prend la poussière et pour tout ce qui est étalement, les rubans de cartes et tout ça, là il y a, ben ça, en fait ça casse dans un petit peu l'esthétique du numéro. Donc voilà, donc on est obligé de, c'est inconsommable en fait pour nous.
Pour revenir à vos débuts, il y avait le close-up, donc c'est par ça que vous avez commencé.
Exact, donc close-up qui veut dire donc gros plan. Hein. On commence par ça, ben, justement grâce au restaurant parce que les gens étaient vraiment proches, donc le close-up était le plus adapté. Le travail d'un close-up man, c'est de travailler devant un miroir de près, car le miroir est le reflet un peu des spectateurs. La famille, les amis sont là quand un peu en cobaye d'ailleurs, et d'ailleurs ma femme va râler parce que en fait quand je lui fais le tour, je lui fais à l'arrache le tour brut. Il y a pas la présentation, il y a pas le baratin. L'important c'est qu'elle voit pas le truc. Et si elle voit pas le truc, ben voilà, c'est bon. Je vais lui demander s'il voit pas le truc. Si c'est non, ben je disparais.
Ça veut dire que la porte ici est fermée à clé. Elle n'y a pas accès pour pas aller gratter dans les accessoires, ou vous laissez libre accès?
Ben je laisse libre accès parce que c'est elle qui range ma pièce. Non, je plaisante.
Combien de numéros à votre répertoire depuis plus de 15 ans maintenant?
Plus de 500, entre les tours de cartes, de pièces, de foulards, disparitions, apparitions. Mais je dois bien avoir dans mon répertoire une cinquantaine que je fais tout le temps, hein, qui sont vraiment rodés, et je sais que ça fonctionne devant le public.
Et votre numéro chouchou, votre coup de cœur, celui que vous ne lasserez jamais de faire, qui bluffe peut-être le plus le spectateur?
Que moi, j'aime bien faire, c'est ce que j'ai appelé prédiction laborieuse, celui que j'ai fait raccourcir sur Incroyable Talent, là, où je faisais les manipulations de cartes en grand écart sur deux chaises, avec une ardoise qui crame et qui révèle une prédiction. C'est un petit peu mon numéro phare et qui m'a fait connaître un petit peu dans la France entière.
Les qualités d'une manière générale pour un bon magicien?
Oui, le détournement d'attention est très très indispensable, surtout en close-up, car c'est ça qui fait que le spectateur ne voit pas la faille à ce moment-là. Et c'est là où entre parenthèses, on place les blagues de balle ou une petite phrase ou quelque chose qui fait que le spectateur n'est pas concentré sur ce que l'on fait. Hein. Ouais, mais surtout sur ce que l'on dit. C'est pour ça qu'on parle beaucoup en close-up. Hein. Le baratin est très important. En ayant même des métiers depuis quelques années, on est toujours stressé, même devant un numéro qu'on connaît par cœur, car on n'est jamais à l'abri d'une erreur, et le public est différent à chaque fois, donc on connaît pas les réactions.
C'est de la bonne adrénaline en même temps, c'est plutôt motivant, c'est boostant finalement à chaque fois.
C'est du bon stress, et d'ailleurs qu'on le transforme positivement, d'ailleurs heureusement d'ailleurs, parce que la tremblote est toujours là au départ, mais chaque artiste, je pense à sa technique. Moi je fais beaucoup de pompes comme ça avant, ça me fatigue beaucoup, et ça me calme également avant le spectacle.
Troisième rendez-vous dans l'univers de la magie avec Antoine Tran alias Tao, que vous avez peut-être découvert comme beaucoup sur cette émission d'M6 Incroyable Talent. C'était en 2009 jusqu'en demi-finale, s'il vous plaît. On va parler justement de la création de spectacles, puisque c'est votre métier aujourd'hui à part entière. Tao, comment ça se passe? On part d'une première idée, de quelque chose déjà d'existant, pour ensuite broder?
Alors quand on parle de création, c'est un grand mot, c'est plutôt une variante de ce qui existe déjà. La recherche de la musique est très très importante dans la création d'un numéro. Si on fait juste un numéro de 2-3 minutes, ça va, mais si on fait un spectacle de 1 heure, il faut casser le rythme par des numéros en musique, parler, dramatique, plus ou moins rigolo, voilà, pour pas que les gens s'ennuient.
Et créer complètement un numéro, ça se fait aussi, rarement, mais ça se fait?
Alors ça se fait, donc comme exemple David Copperfield, Dani Larry également, qui passe dans le plus grand cabaret du monde. Alors parfois on se fait bluffer, qu'on comprend pas du tout, et d'ailleurs en tant que magicien, c'est très bien, parce qu'on a besoin de rêver, nous aussi, de se faire bluffer. Dans l'ensemble, à chaque fois, on comprend quand même le petit truc, mais on apprécie le travail qui a été fait derrière, la recherche de présentation et de mise en scène.
Parfois un tour de cartes, ça dure, voilà, les 30 secondes, on est bluffé. Le public s'imagine les heures, les jours, les mois de travail derrière?
Alors non, je pense pas qu'il s'imagine le nombre d'heures au quotidien, car un numéro de une à deux minutes, c'est des heures de boulot. Et une fois qu'on a acquis la technique, c'est trouver la présentation, un baratin, une histoire différente pour chaque tour. C'est ça qui est très très difficile.
Alors vous, votre petit plus, on l'a dit, c'est l'humour. l'humour notamment, c'est votre façon de dialoguer avec les spectateurs, et puis il y a ce mélange entre la magie et le kung-fu. Kung-fu, ça c'était votre première passion, c'était bien avant la magie.
Exactement, donc je pratiquais ce qu'on appelle le wushu, les arts martiaux chinois. Je faisais énormément de compétitions, les championnats de France à Paris, et j'ai arrêté petit à petit la compétition, car le problème c'est que dans les arts martiaux, quand on va en compétition, du moins dans le style traditionnel, on n'avait pas vraiment de protection à part la coquille, le protège-dents, là. Et donc, je revenais toujours avec un petit coca, je boitais ou encore un doigt un peu fêlé. Donc, pour la magie, c'était pas l'idéal, quoi. Donc, c'était un choix. Donc, la magie a pris le dessus, les arts martiaux. Donc, maintenant, la partie martiale reste plus pour mes entrées de spectacle, hein, voilà, de donner un petit clin d'œil aux arts martiaux. Hein. Donc, c'est la Tao Touch. Donc, c'est ça qui m'a permis de me démarquer. Et si je le fais pas, je suis juste un peu frustré aussi parce que ça, c'est ça qui m'a fait ma réputation. Et quand les gens m'engage pour un spectacle, il voudrait un minimum de ce côté martial.
Et puis, on ne l'a pas dit, mais vous avez reçu beaucoup de prix hein, dans différentes compétitions liées à la magie. Et vous voyez vraiment la différence, vous avez vraiment l'impression d'apporter un petit quelque chose en plus à l'univers de la magie aujourd'hui.
Oui, alors comme vous avez dit, il y a le congrès de magie qui est organisé par la FFAP, où on est un millier de magiciens. Et donc, j'ai été engagé plusieurs fois et j'ai fait beaucoup de concours au sein de cette fédération-là. Et c'est ça qui m'a permis d'être remarqué par d'autres magiciens professionnels d'ailleurs. Dire que dans les congrès comme ça, il n'y a que des magiciens professionnels qui recherchent justement des nouveaux numéros pour les galas, les prochains congrès de magie. Donc voilà, ça me permet de me faire une place dans le domaine professionnel de la magie, en plus du domaine des spectateurs.
Ça veut dire quand on est là que depuis 5 ans dans cet univers en tant que professionnel, en tout cas, c'est plutôt valorisant de se dire on vient me chercher, j'ai une reconnaissance de mes pairs qui eux sont dans le métier depuis des dizaines et des dizaines d'années.
Exactement, oui, c'est vraiment valorisant, mais en fait, c'est pas qu'ils viennent me chercher, mais c'est parce qu'en fait, je suis le moins cher à chaque fois. Non, parce que tout ce qui est asiatique, c'est moins cher, hein, ça va bien.
Notre quatrième rendez-vous dans l'univers de la magie avec Antoine Tran, magicien Tao, que vous avez peut-être découvert à la télévision et que vous découvrez depuis le début de la semaine. Alors là, Tao, on est dans l'antre du magicien, dans votre antre, entouré de beaucoup d'accessoires. Ça demande un véritable investissement d'être magicien professionnel, financièrement parlant, c'est beaucoup d'argent.
Alors, énormément d'argent. C'est vrai que c'est un gros investissement, mais quand on aime, on compte pas. Au départ, on commence beaucoup par le close-up, car c'est ça qui coûte le moins cher. Parce que dès qu'on commence à se mettre à la grande illusion, là, c'est pour vous donner un exemple, une lévitation ou une femme coupée en deux, c'est le prix d'une voiture à chaque fois. Donc, il faut vraiment bien le rentabiliser. Alors que le close-up, avec un jeu de cartes à 3,50€, on peut faire des centaines et des centaines de tours. Sauf qu'il faut travailler beaucoup plus qu'une grande illusion. Car c'est que dans la dextérité, la manipulation et le travail, bien sûr, de présentation pour pouvoir détourner l'attention au moment de la manip.
Un spectacle, c'est quoi de magie? C'est au moins une heure et demie?
En général, pour les spectacles pour enfants, faut compter 3/4 d'heure. Pour les moins de 7 ans, il faut 3/4 d'heure, c'est largement assez. Après, c'est vrai qu'au-delà de 7 ans, comme on dit, l'âge de raison, il commence à cogiter, à plus rechercher un petit peu le truc, la faille. D'ailleurs, les enfants, quand ils voient le truc, ils le disent. Hein. C'est pas comme les grands.
Ça pardonne pas. Hein.
Voilà, c'est pour ça. Mais c'est un très bon public, d'ailleurs. Hein.
Dans votre premier spectacle, la première fois, vous avez vraiment créé un spectacle de A à Z proposé pour le public. Ça remonte à quand?
Ça doit remonter à 7-8 ans, maintenant. Je faisais beaucoup de tours pour les enfants, mais des changements de couleurs. C'est ce qu'on appelle les albums de coloriage, où il n'y a rien, il y a des photos qui apparaissent, après il y a les couleurs. Il y a une spécialité que je fais depuis maintenant une bonne dizaine d'années, c'est les apparitions de véritables poissons rouges. J'ai construit un numéro qui s'appelle le sushi magique, en fait. On parle de cuisine japonaise, une feuille de maquis qu'on enroule, et on pense qu'on va faire apparaître un vrai sushi, mais en fait, comme le sushi c'est avec du poisson frais, et ben c'est un vrai poisson rouge qui apparaît.
Bon, on a dit dans un des précédents rendez-vous, vous consommiez beaucoup de jeux de cartes, vous consommez pas trop de poissons rouges, rassurez-nous.
Après, une fois qu'il est apparu, comme j'ai jamais mangé avant le spectacle, ça me fait du sushi bien frais. Donc, non. Pour ceux qui travaillent à l'SPA, ils sont 5 à se relayer le boulot à chaque fois.
Hein. Ça veut dire que quand on commence, on n'a pas beaucoup d'accessoires, et puis aujourd'hui, ça prend de l'ampleur. On est assis là sur les caisses qui vous permettent de voyager avec vos accessoires. Aujourd'hui, c'est une quantité colossale de matériel.
Exactement. J'ai une pièce consacrée à que ça, que ma femme a construite d'ailleurs, parce qu'elle en avait marre que des cartes se baladent, des pièces partout. Donc, une pièce consacrée à ça, parce qu'il y a, quand on commence à faire de la magie de scène, forcément, on a du matériel beaucoup plus visuel pour que les gens puissent le voir. Et le moindre matériel, bah, en fait, c'est une caisse ou une malle pour pouvoir le mettre en sécurité. Parce que pour le transport, c'est du matériel qui est très fragile, qui est très coûteux d'ailleurs, donc faut en prendre soin.
Alors, ça veut dire qu'on achète ce matériel, on le fabrique soi-même, il y a des filières particulières?
Alors, il y a énormément de boutiques de magie spécialisées. Le problème, c'est que quand on achète un matériel, on est toujours obligé de le modifier, pour, étant donné qu'on personnalise un numéro. Donc, c'est l'effet de base est toujours là, mais on est quand même obligé de modifier. Et c'est le travail de ma femme.
L'accessoire dont vous êtes le plus fier ici ?
Oula, il y a beaucoup de choses, mais l'accessoire dont je suis le plus fier, c'est ma mallette qui est devant vous là.
Qui n'est pas très impressionnante, pas très bluffante, mais qui effectivement se déploie.
Qui se déploie, plusieurs tiroirs. En fait, cette mallette là me permet de faire 3 heures de spectacle en close-up et magie de salon. Il y a des cartes, il y a des pièces, des élastiques, des chouchous. En fait, les accessoires de tous les jours, parce qu'en close-up, on en prend beaucoup d'accessoires des spectateurs qu'on utilise et après qu'on rajoute, bien sûr, avec notre matos de magie.
3 heures avec cette simple mallette. Hein.
Juste une mallette, voilà, qui est entre 8 et 9 kilos et ça permet de voyager partout.
Comment on choisit aussi sa mise en scène, la musique, les décors, là, qu'est-ce qui vous inspire ?
Alors moi, donc, je me suis créé un univers donc plus ou moins asiatique. Donc tout ce qui est décor pour les arbres de Noël, on a un fond de scène qui fait 7 mètres sur 2 mètres 50 et avec des idéogrammes, des dragons, enfin pour que ça fasse vraiment un univers asiatique. Et on ramène à chaque fois notre propre sonorisation et l'éclairage, car on ne sait pas sur quelle salle on va tomber. Il y a toujours des surprises. Donc on préfère ramener plus qu'il ne faut, mais au moins ça valorise notre numéro.
On parle de close-up, donc cette magie de proximité, on parle des numéros spectaculaires. Qu'est-ce que le public veut ?
Beaucoup de monde apprécie plus le close-up que la magie qui pète de partout. Parce que le close-up, ils savent qu'ils sont là à quelques centimètres et qu'on ne prenne pas le truc. Après, quand on a 200-300 personnes dans une salle qui est assis, il faut quand même faire de la magie du show à l'américaine. Parce que maintenant, si on arrive juste en disant bonjour, on fait apparaître quelque chose, c'est trop banal. C'est comme pour un concert, il faut que l'entrée et la sortie soient le plus important et marque les gens. Donc il faut que ça pète à l'entrée et à la sortie. Maintenant, il faut, si on veut toujours travailler dans ce métier-là, il faut être polyvalent. Il faut vraiment faire du close-up, magie de salon, magie de scène. Beaucoup d'entreprises veulent, pour les invités, faire du close-up, en close-up cocktail d'ailleurs. Parce qu'il y a deux formes de close-up, le cocktail et le close-up à table.
Il y en a un où on boit, l'autre où on mange, c'est ça ?
Voilà, exactement. Voilà, et comme ça, j'attends qu'ils boivent, comme ça ils ne comprennent pas les trucs.
Et notre dernier rendez-vous dans l'univers de la magie avec Antoine Tran, alias Tao, magicien que nous découvrons depuis le début de la semaine. Et cet univers de la magie, d'une manière générale, je crois qu'on a bien compris que derrière le spectacle, derrière la fascination qui nous ramène tous plus ou moins en enfance, il y a énormément de travail. Hein. C'est pour vous plus de 15 ans de passion dans cet univers-là. Vous présentez comme un enchanteur public.
Oui, on a trouvé ce terme-là parce que j'ai trouvé ça original au lieu de se présenter en tant que magicien. Prestidigitateur, c'est trop dur à dire. Donc du coup, enchanteur public, c'est d'ailleurs un spectateur qui m'a trouvé ce surnom. Voilà, une vieille dame d'ailleurs que j'ai fait ses 80 ans à l'époque, qui m'a dit vous êtes vraiment un enchanteur. Et au lieu de mettre juste enchanteur, comme je travaille pour le public, on a rajouté ça.
Ce public justement, il est de plus en plus exigeant, je suppose, avec les années. Aujourd'hui, il y a des effets spéciaux au cinéma, donc on a l'impression qu'on est finalement un peu blasé de tout. Ça complique un peu votre tâche. Ça demande encore plus d'efforts, encore plus de recherche dans un travail de magicien.
Exactement. Et c'est là où intervient vraiment la personnalité de chaque magicien. Même s'ils connaissent les classiques de la magie, ils aiment bien le personnage et voilà, et c'est là que voilà qu'on a tout gagné.
Et ça veut dire qu'il y a la technologie qui évolue aussi énormément. Ça vous aide dans l'univers de la magie, les nouvelles technologies. Ça vous permet des créations qui n'auraient pas existé il y a 10 ans.
Oui, je ferai un petit tour avec l'iPhone justement là. mais c'est vrai que la nouvelle technologie est là comme support. Le problème, c'est que si on utilise un iPad, un iPhone sans accessoire à côté, ça fait trop électronique. Alors que si on combine un jeu de cartes, un accessoire de magie et qu'on utilise en support l'iPhone et tout ça, là ça fait un effet magique beaucoup plus moderne.
Alors la question qu'on se pose aussi, c'est que vous, ça vous faisait rêver quand vous étiez gamin, c'est comme ça que vous êtes arrivé dans cet univers. Aujourd'hui, ça vous fait toujours rêver la magie, quand on connaît quasiment tous les trucs, quand on est sur la technique plus que sur l'illusion visuelle, est-ce qu'on rêve toujours magie ?
Alors moi, je rêve toujours magie, pratiquement 24 heures sur 24, et c'est pour ça que quand on fait un spectacle, on n'est pas lassé de le faire parce qu'on est toujours passionné et on a envie de partager en fait cet univers magique, bluffer un peu les gens et on a besoin de s'évader avec notre époque. Et s'il y a une touche d'humour en plus, ça fait pas de mal.
Alors vous êtes passionné depuis 15 ans. Votre volonté aujourd'hui, c'est quoi ? C'est de promouvoir aussi la magie, de continuer de faire vivre cet univers, d'où votre participation sans doute à Incroyable Talent, le dîner presque parfait. Ouais. Vous êtes jeune papa, ça veut dire que vous avez envie, vous auriez envie de transmettre cette passion à vos enfants aussi ?
Oui, alors je suis papa depuis le 22 décembre, une petite fille qui s'appelle Andrea.
Et les femmes dans la magie, c'est pas celles qui sont les plus représentées d'ailleurs. Hein.
Exact. C'est vrai que là, il y a pas beaucoup de magiciennes. Il y en a peut-être 2-3 en France qui se démarquent, mais en général, c'est vrai que les partenaires féminins sont surtout là pour aider le magicien sur scène, amener le matériel. à poser, à détourner l'attention, parce qu'en général, elles sont bien bien habillées. Et du coup, les hommes regardent la partenaire et leurs propres femmes regardent les hommes pour voir s'ils regardent pas trop le partenaire. Donc du coup, ça détourne l'attention.
Personne n'est sur vous. Voilà. Hein,
donc on fait ce qu'on veut.
Donc ça veut dire que votre fille sera peut-être votre assistante d'abord, et puis après la volonté que elle prenne un peu le flambeau. Donc ça veut dire de lui glisser quelques-uns des secrets. Ça, là, on a le droit dans la famille.
Exactement. Alors on a le droit par des tours tout simples, bien sûr, et après à voir si elle est vraiment intéressée ou pas, parce que j'aimerais surtout pas la forcer, mais je pense qu'elle appréciera au moins les spectacles de magie, sans pour autant en faire.
En tout cas, la magie, on l'a compris, n'arrêtera jamais d'évoluer. Il y a encore plein de belles choses à découvrir, y compris pour les magiciens eux-mêmes.
Exactement. Il suffit d'avoir maintenant beaucoup d'idées et les mettre en pratique après. Et essayer de vivre avec son temps, surtout.
Pour terminer, on peut préciser qu'on peut vous trouver sur Internet avec magictao.fr, c'est votre site Internet. Exactement. Et on peut rentrer en contact avec vous. Et pourquoi pas vous demander de venir dans des réunions, quelles qu'elles soient, pour venir nous bluffer comme vous l'avez fait là face à moi durant cette semaine.
Et souvent dans les spectacles, on me demande si Tao n'est pas mon vrai prénom, car en fait mon prénom c'est Antoine, mais en fait j'ai la double nationalité. Hein. Je suis vietnamien du côté de ma maman et français du côté du meilleur ami à mon père, voilà, qui a disparu. Et ça c'est le premier tour que j'ai fait d'ailleurs. Voilà, comme ça vous êtes au courant de tout. Mais c'est une blague, hein, c'est vrai.